Salut.
Salut.
C'est Champ Libre. Salut à tous et à toutes. C'est Champ Libre numéro 500.
Wouhou !
Champ Libre, numéro 500, qui commence avec un titre des Beatles, puis que, comme j'étais en train de le dire hors antenne, c'est quand même de leur faute si tout ça est arrivé un jour. Voilà. Joe est là aujourd'hui, puisque Champ Libre mensuel oblige.
Absolument.
On parlera de cinéma.
Cinéma, oui. Bonsoir.
Carole est là. Bonsoir. Pas les oreilles qui saignent encore après un concert monstrueux hier soir. Et Laurent est à la technique avec des moustaches en chocolat. C'est bizarre. Voilà. Donc, Champ Libre numéro 500. Champ Libre numéro 500 avec les rubriques ou la rubrique de Carole. Elle va nous présenter ce soir deux albums.
Ouais.
Plutôt qu'un.
C'est mieux. Moi, je
vous parlerai de bouquins. Enfin, je vous parlerai d'un livre qui m'a obligé, qui m'obligera à vous parler également de films, de vieux films, voire même d'autres livres.
T'as tiré une pelote qui est sans fin et du coup, tu vas faire une émission spéciale sur tout ça.
Et quelle pelote, comme disait l'autre. En tout cas, cette émission a commencé avec un titre des Beatles en mono, s'il vous plaît. Je dis ça pour les puristes.
Précisons.
Bon, vous êtes sur les ondes de Couleur FM et c'était de la mono, comme on disait à l'époque. On va commencer ce champ libre, si vous le voulez bien, avec une nouveauté. Alors, il y a un groupe qu'on aime beaucoup ici dans Champ Libre. Quand je dis « on », c'est « je ». Il y a un groupe que j'aime beaucoup dans Champ Libre. C'est le groupe américain Wilco.
Oui.
Et les musiciens de Wilco, qui font quelques bons albums tous les deux ans à peu près, s'ennuient lorsqu'ils ne font pas de musique. Et tous autant qu'ils sont, ils ont créé d'autres groupes alternatifs. Voilà, donc je pense à Nels Klein, qui joue... avec son trio, qui accompagne également une grande dame qui a quelque chose à voir avec les Beatles, d'origine japonaise, dont j'ai oublié le nom. Je pense également au batteur Glenn Koche, qui a un groupe qui s'appelle Loose Fur, dans lequel on retrouve Jeff Tweedy, le chanteur Wilco. Enfin voilà, donc ces gens-là s'ennuient et ils enregistrent des choses à droite et gauche. Tweedy a produit les albums de Mavis Staples, qui sont des petits bijoux. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Le bassiste et le John Stirratt, et puis le multi-instrumentiste, clavier, etc., violon, cuivre, Pat Sanson, et à eux deux, ils ont créé un duo qui s'appelle Autumn Defense. C'est le cinquième album de ce groupe qui sort. C'est une musique avec des harmonies vocales... qu'à mon avis, ils sont allés chercher du côté de chez les Beatles.
Rassure-moi, ils n'ont pas invité Yoko Ono.
Ils sont allés chercher ça du côté... Mange le chocolat. Ils sont allés chercher ça du côté de chez les Beatles. Ce sont des orfèvres en matière de mixage et de réalisation. L'album cinquième s'appelle Fifth, ce qui est relativement normal pour un cinquième album. Et on écoute tout de suite un titre qui, lui, s'appelle This Thing That I Found. Voilà, Autumn Defense, c'est beau et c'est champ libre. What is this thing that I found? And can I handle it? To come around, yeah, they don't hold a candle to it, yeah. Yesterday I had something to say, but tonight I just wanna get the feeling right. What was that thing that you said? Do you remember it? Yeah. All of those boys that used to run the town, yeah, they don't know a thing about it. Now you'll see. un nouvel album, donc, du groupe américain Autumn Defense. L'album s'appelle le cinquième. C'est l'heure.
Oui, c'est l'heure. Je vais un peu plombé-lombon, je suis désolé.
Oh non.
Voilà. Moi, mon film se passe en 1841. Ça se passe à Saratoga Springs, État de New York. Solomon Northup est un Afro-Américain, homme libre, violoniste, respecté de tous, marié, père de deux enfants. Deux individus demandent un jour ses services pour accompagner musicalement leur spectacle. Solomon accepte, bien évidemment, après moult hésitation, pour l'argent, dit sa femme. Il se retrouve drogué, enchaîné dans un sous-sol, en vue de servir de prochaine cargaison au navire livreur d'esclaves, direction la Louisiane. Et entre le nord abolitionniste et le sud esclavagiste, le gouffre est béant. Solomon perd son nom, son prénom, se voit attribuer le sobriquet de Platte. Il est acheté par un propriétaire de plantation plutôt bienveillant avant d'être cédé comme compensation de dette au propriétaire de culture de coton, le taciturne et sanguinaire Edwin Epps. Solomon Northup sera donc un esclave pendant 12 ans. 12 Years a Slave, troisième long métrage très attendu du plasticien Steve McQueen, le réalisateur qui se base pour la première fois dans sa filmographie sur un matériau déjà existant, en l'occurrence les mémoires de ce fameux Solomon Northup, qui sont, cela dit, hein, édités en livre par Michel Lafon, donc disponibles à la vente. Et bon, même si Hunger partait déjà d'un fait réel, hein, qui retraçait les derniers jours de révolte de Bobby Sands, le scénario en lui-même ne s'appuyait pas sur un témoignage direct. Et pour synthétiser les 12 ans de calvaire de Solomon Northup, Steve McQueen a adopté une forme quand même plus classique, moins expérimentale, au contraire de ses deux précédents films. Et en vue d'une crédibilité temporelle de ces 12 longues années, le réalisateur a étudié quand même avec minutie les costumes d'époque et accoutrements des esclaves. Et ça renforce clairement, hein, l'impression d'assister à un désagrégement physique, moral du personnage principal qui, au début, refuse cette condition d'esclave en se revendiquant homme libre, avant d'abandonner son identité et de se résoudre à devenir un bien à la solde des riches propriétaires par dépit, mais aussi par survie. Donc c'est un film d'une puissance inouïe, d'une grande justesse. J'émets quand même quelques bémols, quelques réserves. Juste, le film est quand même taillé vraiment de manière adéquate pour les cérémonies de prix diverses, et notamment la fameuse cérémonie des Oscars qui doit se tenir dans pas longtemps. Et aussi, certains personnages auraient quand même mérité d'être plus approfondis, par exemple l'abolitionniste miraculeux, je dirais, joué par Brad Pitt, ou alors le personnage ambigu joué par Benedict Cumberbatch. Ça aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement. Mais sinon, bon, on connaît quand même le cinéma de Steve McQueen, pour être plastique, très visuel, mais surtout aussi parfaitement complaisant. Donc on pouvait le redouter, nous, ici, il est toujours à la limite quand même, hein. Certaines scènes sont très dures, mais quand même les dimensions humaines, universelles, n'en sont que plus grandes. La mise en scène de McQueen est adroite, proche des corps, des âmes, violentées, meurtries dans leur tréfonds, d'une très grande grandeur, implacable. Si Oscar il y a, ne pas oublier quand même de récompenser en premier lieu les acteurs, surtout Chiwetel Ejiofor, qui est juste fabuleux, et Michael Fassbender. Voilà pour ce film-là, 12 Years a Slave de Steve McQueen.
À ne pas confondre, je m'excuse parce qu'on a des auditeurs.
Forcément, Steve McQueen n'est pas le.
C'est pas le même.
C'est pas le même, c'est pas l'acteur de La Grande Évasion.
Parce qu'il est mort.
Thomas Mann, il est mort il y a un moment, oui.
Voilà.
il est mort.
Non, c'est plaisant. Bullitt, tout ça.
C'est pas drôle, mais.
Oui, donc, ce film traite d'un sujet qui, en fait, la traite des Noirs, l'esclavage. Ça nous permet de savoir, je ne dis pas de nous souvenir, parce que la plupart d'entre nous ne le savaient pas,
non.
Que, y compris après la guerre de sécession,
ça
pouvait encore y avoir des trafics entre le Nord et le Sud.
Et surtout, bon, non seulement l'esclavage a été très peu traité au cinéma, bon, dernièrement par Spielberg et Harry Lincoln, mais de manière indirecte, et aussi de manière Django, mais qui était un petit peu, qui était un peu grand guignolesque quand même, hein, pour une question de l'esclavage. Là, c'est vraiment le premier film sur l'esclavage traité de manière digne et sans fioriture, hein. C'est-à-dire que là même, on apprend que des hommes libres, des Afro-Américains, à titre personnel, en tout cas, je ne le savais pas, que des hommes libres au Nord pouvaient être enlevé et kidnappé pour être revendu dans le sud, pour être esclave. Et c'est juste, voilà, c'est juste un sujet super fort qui est très très rarement traité au cinéma, quoi.
Steve McQueen, pour compléter ce que tu dis, a déclaré au Guardian, grand journal anglais, Hollywood a fait plus de films sur les esclaves romains
absolument
que sur les esclaves américains, les deux grands génocides, enfin les américains, les indiens et les noirs sont finalement très peu traités dans le cinéma américain.
Ah ben oui, que ce soit dans la Rome antique ou dans la Shoah ou d'autres exterminations, on a vu beaucoup plus de films là-dessus effectivement que sur l'esclavage, sur leur propre pays, leur propre histoire. En fait.
Je te propose un petit jeu. J'ai lu des tas de critiques, je suis allé me balader sur les sites web qui parlent du film. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'on parle du film 12 Years a Slave de M. Steve McQueen, qui est anglais.
Qui est anglais, absolument.
Donc j'ai lu des tas de choses, j'ai relevé des mots. Est-ce que tu peux essayer de me répondre par oui, non, avec une phrase courte. Violent.
Oui, bien sûr.
Hyper académique. Je crois que tu as répondu.
Non, ouais, pas hyper académique. Ça, on garde quand même une patte Steve McQueen. Je pense que pour traiter ce film, il a adopté une manière un peu plus classique, en fait, un style un peu plus classique, mais on retrouve quand même certaines scènes traitées de manière assez clinique, je dirais, et assez rude à la Steve McQueen, je dirais, et assez, qui demeure quand même assez plastique malgré tout.
Manichéen. Manque de nuances.
Je dirais partagé. Ah, c'est compliqué. Hein.
On fera une autre émission là-dessus. Ouais. Personnage simpliste, voire ridicule. Je parle là du personnage de Brad Pitt.
Ah, oui. Oui. C'est ce que je disais. Hein. Il y a des personnages qui manquent d'approfondissement, qui manquent clairement et cruellement de nuances, effectivement, oui.
Ok, donc ce film a au moins le mérite d'être un film qui traite d'un sujet qui n'était pas traité au cinéma.
Voilà, exactement.
Donc voilà, on en reparlera lorsque le DVD sortira. Pour l'instant, ouais. Il est au cinéma.
Après, toute proportion gardée, il y a eu le Majordome il y a quelque temps qui avait traité éventuellement de ce sujet-là, mais...
Oui, à travers...
C'est pas l'esclavage.
Oui, c'est pas sur l'esclavage, mais c'est effectivement...
C'était en fond.
Oui,
c'est pas l'esclavage. Mais des personnages de bons noirs de côté, il y a autant n'importe le vent.
Miss Daisy et son chauffeur, entre autres. Enfin bref.
On fait une petite pause musicale. Donc c'était la rubrique cinéma de Jo. Rappelle le film.
12 Years a Slave de Steve McQueen, Omega Royal. Donc profitez-en, ça n'a pas duré.
Pourquoi le méga royal ou le film?
Le film.
Allez, on écoute un titre du nouvel album de Monsieur Stephen Malkmus. Stephen Malkmus, ex-Pavement, avec son nouveau groupe. Enfin, quand je dis nouveau, il y a déjà quelques albums que c'est son nouveau groupe. Le groupe s'appelle The Jicks et ça vaut vraiment le détour. L'album s'appelle Wig Out à Jack Bags et le titre qu'on écoute s'appelle Chibolette.
Christian constructs.
Stephen Malkmus et son groupe The Jicks. Carole, Joe, et puis nos auditeurs aussi, moi j'aimerais vous parler ce soir d'un livre. Je voulais vous parler d'un livre, mais je crois que je vais vous parler d'un petit peu plus que d'un livre. Je voulais vous parler d'un livre qui est sorti il y a quelques jours en France, quelques mois au niveau mondial. C'est un roman du chanteur, musicien, folk singer, Woody Guthrie. Donc, tous ceux qui écoutent Chant Libre et toutes les émissions sur Couleur FM ont entendu parler de Woody Guthrie. En route pour la gloire, cette machine tue les fascistes. C'est ce qui était écrit sur sa guitare. Voilà. Donc, c'est un petit peu la caricature du hobo, le mec qui se balade au bord des routes avec une guitare et qui s'arrête, mange à droite et à gauche. Donne un petit coup de main dans les fermes, etc. Ce qu'on oublie, c'est que Woody Guthrie a vécu cette chose-là au début du siècle dernier, dans les années 30, et il a vécu en particulier un épisode qu'on connaît peu ici, un épisode alors, historique et écologique, climatique aux États-Unis, qui s'appelle « The Dust Bowl », c'est-à-dire la grande tempête de poussière. On avait tellement détruit les terres, tellement cultivé n'importe comment, tellement enlevé les arbres pour pouvoir exploiter la terre un peu plus, que le vent a fini par remporter la terre et l'a remplacée par de la poussière. Et ce qu'on oublie, c'est qu'en avril 1935, il y a eu une tempête de poussière qui s'est abattue sur le Texas et qui a ravagé le Texas. Il y a eu des centaines de morts, le bétail est mort, les gens ne pouvaient plus respirer. Pendant des années, il y a des personnes qui ont souffert de maladies chroniques liées à la poussière qu'ils avaient inhalée. Les tracteurs, les machines agricoles ne pouvaient plus redémarrer parce qu'elles étaient complètement encrassées et ensevelies sous la poussière. Donc vous imaginez, vous savez, les séries en deux épisodes catastrophes qu'on nous projette sur M6, la grande tempête de neige, le volcan et tout, ben c'était exactement ça, sauf que c'était en vrai. Donc Woody Guthrie a été profondément marqué par cette chose-là qu'il a vécue, et il en a fait deux albums qui s'appellent The Dust Bowl Songs, mais il avait également écrit un roman qui vient d'être édité en français grâce à deux personnes, un acteur, monsieur Johnny Depp
ouais.
Et puis un autre bonhomme qu'on connaît un peu dans Chant Libre, il s'appelle Bob Dylan. Donc ce roman s'appelle La Maison de Terre. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple de paysans dans les années 30. Alors, quand je dis paysans, des métayers, ils sont pas fermiers, ils ne possèdent pas leur terre. Ils vivent dans une maison en bois qui laisse passer la poussière de partout. Donc la poussière sèche en été, la neige noire en hiver, parce que la poussière se mélange à la neige, et puis ça laisse passer le vent, le froid, etc. Et ce jeune couple rêve d'une maison en dur, en particulier d'une maison en adobe, c'est-à-dire des briques de terre séchées. Donc ce livre, c'est un plaidoyer pour les maisons en pisé. On habite en Isère, ça tombe bien. C'est un plaidoyer pour les maisons pisées, puis c'est surtout un plaidoyer pour si tu as ta propre maison au-dessus de ta tête, tu es beaucoup moins dépendant du propriétaire du terrain, etc., etc. Woody Guthrie en profite également pour nous raconter quelque chose qui, à mon avis, devrait évoquer un certain nombre de choses intéressantes pour vous. Il nous explique que pour que ces gens puissent s'en sortir, on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils produisent moins. C'est-à-dire, on demande à un paysan, à un fermier, de ne plus cultiver, de laisser ses terres en jachère, puisque c'est la surproduction qui fait baisser les prix au niveau international et qui met les pays en faillite. Je sais pas, j'ai comme l'impression d'avoir entendu ça quelque part il n'y a pas si longtemps. Voilà. Alors, que dire de plus ? Woody Guthrie est un super chanteur, mais c'est un super écrivain. Moi, ça me fait penser au jeune Boris Vian au niveau du style et puis également au niveau du contenu. Dans ce bouquin, il y a au moins 50% des pages qui racontent des choses qui, de toute façon, ne pouvaient pas être publiées à cette époque-là. Je pense en particulier aux scènes d'amour qui, même aujourd'hui, risqueraient de ne pas être publiées. Hein, parce que, je sais pas, il y a des gens qui manifesteraient le dimanche après-midi. Voilà. Donc, Woody Guthrie, La maison de terre, chez Flammarion. Et du coup, ça m'a donné envie de me repencher sur cette partie de l'histoire des États-Unis qui n'est pas si vieille que ça. Et j'ai relu le bouquin de Woody Guthrie, En route pour la gloire, qui raconte, pour le coup, les choses, mais de manière biographique, autobiographique. Il y a un film qui a été tiré il y a quelques années de En route pour la gloire, la bio de Woody Guthrie, qui s'appelle En route pour la gloire, avec David Carradine dans le rôle de Woody. Très bon film. Et puis, profitez-en pour relire également Steinbeck, oui. Les raisins de la colère, et pourquoi pas jeter un œil sur le film de John Ford, qui s'appelle Les raisins de la colère, et qui était tiré du bouquin de Steinbeck, avec Henry Fonda, dans le rôle principal. C'est l'histoire de Tom Joad. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. C'était la rubrique cinémato-critico-littéro-folk de Champs Libres. On va écouter un titre de M. Woody Guthrie. Ça s'appelle « Déporti ». Il y a, c'est au milieu des... À la fin des années 30, un avion qui transporte des immigrés mexicains s'écrase. Et dans le journal le lendemain, on raconte que l'avion, en explosant, a fait des dégâts dans les champs, mais à aucun moment on évoque qui était dans l'avion. Les Mexicains, les immigrés n'ont pas de nom. C'est ce que raconte cette chanson, très jolie, que vous avez très certainement chantée lorsque vous y étiez scout ou éclaireur ou éclaireuse de France. The crops are all in, the peaches are ready. The oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to pay it back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. You won't have a name when you airplane, oh, they'll call you Deportee. My father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters, they worked in your orchards, rode the big trucks till they lay down and died. Goodbye to my one, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos. Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportee. Oh, the sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. A fireball of lightning that shook all our hills. Who are all these friends who are falling like dry leaves? The radio said they're just deportees.
Goodbye to my one, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. Oh, they will call you LBD Portis. That's all I can remember.
Chant libre, le favori.
Aucune raison de changer cette semaine. L'album favori, Chant libre, c'est toujours l'album Harlem River de Monsieur Kevin Morby.
Sucker in the void, a coyote no path, like a sucker in the void, all future no past, like a sucker in the void.
Songer à donner une fête dans un endroit pareil. Oh là là! Je ne dois plus être très loin du centre de la Terre. parti rouler, j'en marche la tête en bas et les pieds en l'air.
Peut-être que je pense à changer le jingle un jour. Ce soir, j'avais envie de m'intéresser au groupe qui fait débat et incontournable dont tout le monde parle. Je cite le fauve en question qui atterrit donc sur nos albums en début du mois de février. Mais l'histoire a commencé déjà en mai 2013, puisque sortait un 6 titres prometteur intitulé Blizzard, disque conceptuel mettant à l'honneur le chant parlé sur un rythme électro-rock. Le collectif Fauve entre dans l'arène de l'industrie du disque en étant autoproduit. Le style est correct, l'accompagnement musical interpelle et les textes sont spontanés. À la première écoute de ce Blizzard, l'état d'urgence se fait sentir. Une jeunesse sans complexe s'exprime et crache son désir de vivre à la gueule des bien-pensants. Cela reste mon avis, mais j'ai entendu la bande-son des états d'âme d'un Jacques Kerouac, créateur de la prose spontanée. L'engouement pour ce collectif artistique est tel que ces derniers remplissent les salles en un clin d'œil et font l'objet des rumeurs les plus folles. Février 2014, donc hier, arrive le tant attendu album de Fauve, porte-parole d'une jeunesse à bout de souffle, en panne d'aspiration et victime du désœuvrement que leur impose. Les textes sont construits à la journal intime et font référence au mal-être permanent, au manque d'estime de soi, au désir d'aimer, à la peur de craquer. Si le premier EP nous donnait un sentiment de revanche et d'indignation, l'album « Vieux frère » fait ressortir un discours plus fataliste et pessimiste. Le collectif s'en prend au quotidien qu'ils étouffent, au manque d'envie, au regard des autres ou à l'indifférence qu'ils peuvent susciter. Il est normal que le rendu fasse débat. Ce discours plaintif est-il recevable de la part d'une génération qui a tout le confort moderne et qui expose leurs problèmes futiles et anodins? Que peut-on souhaiter à cette génération à qui il n'arrive jamais rien? Guy, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter?
De ne pas écouter Vincent Delerme, parce qu'il raconte, il chante exactement les mêmes chansons que Fauve. J'aime beaucoup les chanteurs qui parlent du quotidien. Alors, on a parlé de Woody Guthrie, etc. Je pense aux Kings, et puis il y en a, Bachung est capable, par exemple, de parler du quotidien. Mais là, Fauve, j'ai réécouté cet après-midi, et ça rentre d'une oreille, et puis ça laisse pas de traces entre les deux. Alors, j'ai entendu vaguement un cadre qui se plaint d'être fatigué quand il rentre du boulot. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Je suppose que les mineurs de Lorraine, eux, rentraient en pleine forme à l'époque à la maison. Enfin voilà, moi, il y a un truc qui me gêne à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est un peu vide. Et puis, il y a une deuxième chose, on a déjà parlé, Carole, c'est que ce qui me gêne énormément, c'est comment on fabrique ce type de groupe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une super opération de marketing commercial.
C'est conceptuel.
On nous dit, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de label, pas de maison de disque. Je ne veux pas être grossier, mon œil. À mon avis, il y a plein de trucs derrière. Cet après-midi, je lisais la critique de Fauve dans le nouveau Rock & Folk. Alors, ils disent, véritable phénomène, parti à l'assaut du web, surfant sur la vague, etc. Alors, ils disent qu'ils sont fans de hip-hop, ils utilisent le talk-over, cette façon de parler. Problème, c'est qu'ils sont assez limités après en portée au niveau du chant.
Ouais, sur la durée, c'est très difficile.
Voilà, ça devient un petit peu fatigant. Et ils disent que cet album aurait été peut-être un petit peu plus intéressant si on avait ouvert le champ musical, ainsi que celui de la réflexion. Malheureusement, à part le titre « Voyou », alors c'est eux qui le disent, « Collectif exploite la même veine en frôlant par moments sa propre caricature. On a très nettement l'impression que Fauve est pris à son propre piège. » C'est joli ça. « Une belle posture, presque trop confortable. » Le problème, c'est que le public a fortement adhéré à la chose.
Mais c'est un public qui est tout de même assez jeune et qui se reconnaît a priori dans ces textes-là.
Pas que. Télérama, Edith Irambique, pas que. Ça va, se vend. Alors, ça
prouve. Et toi, Joanie, t'as écouté un petit peu?
J'ai pas encore écouté, non.
D'accord.
On
en reparlera quand t'auras jeté une oreille sur la chose.
Oui.
T'avais autre chose à ajouter ?
Non, on va écouter.
Ah, on va écouter. Donc, j'ai choisi pour le coup parce que tu avais déjà passé de ceux il y a quelques semaines. Donc, je vous propose d'écouter le titre L'Autrice et le titre qui clôt cet album. Donc, Fauve, tiré de l'album Vieux Frère.
Numéro 1.
Numéro 1.
C'est le 1.
De ma fenêtre, je vois les élèves du lycée Rodin qui sortent de cours en poussant des cris de joie. Les garçons paradent, ils ont l'air plein de sève, et les leggings des filles serrent leurs jambes et leurs fesses encore fermes. J'aurais bien aimé connaître le lycée public, apprendre la vie au bon moment, être à l'aise, un peu couillu et effronté, faire ma puberté dans les temps, piquer des trucs dans les supermarchés, perdre mon puce lâcheteau, me prendre des droites et en donner quelques-unes en retour sans m'écraser. Mais ça n'a pas été le cas, non, loin de là. Moi j'étais plutôt de ceux qui rasent les murs, qui font pas de vagues, un genre de grenade. Un gentil petit collabo coincé du cul et peureux comme y'a pas, qui fait tout bien comme on lui demande, qui se lève tôt, se couche tôt et travaille quand il faut. Mes parents m'ont pas forcé, j'ai fait ça tout seul comme un grand. Puis je me suis obstiné durant des années, forcément ça a fini par me jouer des tours. Depuis j'essaye de faire avec, j'essaye de faire dévier le sillon, ce sera pas facile, non. Heureusement je suis pas seul pour faire taire la voix qui me répète. Tu seras lâche et impuissant, résigné, soumis, déprimant, insuffisant, pas adapté, spectateur dans le fossé. Tu seras tout seul, divorcé, sans enfant, remarié, alcoolo, adultère, fils indigne, mauvais frère. Tu seras amer, trop sévère, malheureux, toujours en colère, méprisable, imbuvable, égoïste, insupportable. Tu seras ce qu'on te dit, tu discutes pas. Ici bas, c'est comme ça, t'as compris le jeu, petit merdeux, c'est la roulette, tu choisis pas. Ah ouais, tu crois ça? Bah écoute, je sais pas pour toi, mais pour moi, ce sera la tête haute, un poing sur la table et l'autre en l'air. Fais-moi confiance avant de finir, six pieds sous terre. J'aurais vécu tout ce qu'il y a à vivre et j'aurais fait tout ce que je peux faire. Tenter tout ce qu'il y a à tenter et surtout j'aurais aimé. De ma fenêtre, je vois les gens qui partent au taf. Y'en a qui ont fière allure avec leurs beaux manteaux et leurs belles chaussures. D'autres, au contraire, ont l'air de ramasser ses verres. Toutes celles et ceux qui s'en vont une fois de plus servir la soupe aux autres. Ma conscience de petit blanc me rattrape aussitôt. Tu vois, tu devrais arrêter de te plaindre. Et pourtant, je sais pas, est-ce que c'est nous qui sommes devenus des baltringues ou bien est-ce que c'est le monde qui part en vrille? Parfois, je me dis qu'on nous a tellement habitués au goût de la culpabilité qu'on est devenu incapable d'y voir clair. Par exemple, moi, pendant longtemps, je me suis acharné à me ranger dans une boîte, à avoir une vie normale, sans accro, sans risque, sans drame, avoir un métier normal, un salaire normal, des sentiments normaux, une femme normale, une mort normale, etc., etc. Mais j'ai pas pu, c'était trop pour moi, j'étais pas assez endurant. Alors, à la place, j'ai cherché une fin pour vivre dignement et aujourd'hui, je me saigne pour essayer d'aider les miens de la bonne façon d'agir selon des nobles fins et un jour enfin donner tort à cette qui me répète, tu seras dominant ou noyé, écrasant ou écrasé, carnassier ou dispensable, gagnant ou donné négligeable. Tu seras semblable à tes semblables, comme tout le monde ou dégradable, plus malin ou trop du cul, tortionnaire ou corrompu. Tu seras battu et silencieux ou bien cruel mais victorieux, rigoureux ou inutile, féroce ou détail futile. Tu seras ce qu'on te dit, tu discutes pas. Ici bas c'est comme ça, t'as compris le jeu, petit merdeux, c'est la roulette, tu choisis pas. Ah ouais, tu crois ça? Bah écoute, j'sais pas pour toi, mais pour moi, ce sera la tête haute, un poing sur la table et l'autre en l'air. Fais-moi confiance avant de finir, six pieds sous terre. J'aurais vécu tout ce qu'il y a à vivre et j'aurais fait tout ce que je peux faire. Tenter tout ce qu'il y a à tenter et surtout, j'aurais aimé. De ma fenêtre, je vois un bout de l'enceinte de l'hôpital. Si je penche un peu la tête, je peux peut-être arriver à voir le bâtiment des consultations. Je repense à toutes ces fois où on m'a dit t'es trop sensible, mais ça va aller, fais pas cette tête. Bon, ok, ce sera peut-être pas tous les jours la fête. Et le docteur de la tête qui me répète que c'est comme ça, qu'il faut que je l'accepte, que c'est comme le diabète, qu'il faut vivre avec. Alors j'essaie chaque jour que Dieu fait, et j'ai pas dit mon dernier mot, t'inquiète, y'a rien d'écrit, rien d'écrit, et nique la voix qui me dit. Tu seras schizo, bipolaire, trop fragile, suicidaire, tyrannique, incurable, repoussant, pas regardable. Tu seras sadique, narcissique, voyeur pervers, égocentrique, destructeur, dépressif, obsessionnel, compulsif. Tu seras damné, condamné, étendu sur la chaussée, déformé, mal branlé, démoli, trois fois rejeté. Tu seras ce qu'on te dit, tu discutes pas. Ici bas c'est comme ça, t'as compris le jeu, petit merdeux, c'est la roulette, tu choisis pas. Ouais, tu crois ça? Bah écoute, je sais pas pour toi, mais pour moi, ce sera la tête haute, les couilles sur la table, le poing en l'air. Fais-moi confiance avant de finir, six pieds sous terre. J'aurais vécu tout ce qu'il y a à vivre, j'aurais fait tout ce que je peux faire. Tenter tout ce qu'il y a à tenter, et surtout, on m'aura aimé.
C'était Fauve avec le titre Loterie, tiré de l'album Vieux Frères, donc sorti récemment. La deuxième partie devrait sortir à la fin de l'année, s'il me semble. Donc on verra ce que ça donne d'ici là. Autrement, 2014 serait-il l'année du chat ? À en croire l'horoscope chinois, non, pas vraiment. Plus simplement, ce que les astres vous promettent, amis félins, c'est le triomphe dans le domaine qui vous stimule le plus. Le secteur des rencontres, des déplacements et de la culture sera très favorisé. Tant mieux, car c'est bien ce qui nous intéresse en ce moment, parce que le prince Miaou ne sort pas ses griffes, mais un quatrième album, abouti, nuancé, et nous offre une production ambitieuse qui se révèle au fil des écoutes. L'orchestration se veut grandiloquente, à la croisée de l'électro et de l'organique. Le chant vaporeux laisse flotter des harmonies vocales pleines de lyrisme et de sensualité. Modélisa Mando est sans aucun doute l'artiste française la plus talentueuse de sa génération. À seulement 30 ans, elle a su imposer son style, une patte incisive et sacrément créative. En 2011, Fill the Blank with Your One Emptiness, son troisième album, fut salué unanimement par la critique, mais trop difficile à digérer. Modélisa l'a craché telle une boule de poils, ce qui lui a valu bon nombre de moments difficiles et de remises en question. À un poil de mettre fin à sa carrière, le prince part faire le dos rond à New York et nous revient avec l'étonnant Where is the Queen, accompagné de son frère, Benjamin, et d'Antoine Gaillet à la production. Ce quatrième opus s'ouvre sur l'excellent Happy Song for Empty People, titre à l'intro prometteuse s'ouvrant en trois temps sur un clavier sombre et dramatique, suivi d'une batterie annonçant les représailles, laissant un riff de guitare embrasser le tout. Le règlement de compte est à l'honneur, sur fond de déception et d'abandon. La voix est franche, sensuelle et parfaitement maîtrisée sur les aigus. À retenir également les titres Ulrich, sur fond d'électro délicat et empathique, la belle revisite rencontre du troisième type. JFK questionne sur le « que reste-t-il à faire une fois que tout sera fini ?». Les titres Bro, Alaska, Beloved Knife renouent avec la griffe rock incisive du Prince Miaou, ce qui crée un parfait équilibre avec les nouvelles aventures sonores expérimentées sur cet album, telles que le très intimiste et minimaliste Aliénor, dans lequel on entend un message sur répondeur téléphonique s'adressant à Maud Elisa, il s'agit de sa grand-mère Raymonde. Cette intrusion dans la vie privée du chat se fait en parallèle d'un accompagnement musical électrique et délicat, guitare-basse. La fin du message laisse place à un chant envoûtant, aussi intense que bref. L'album se poursuit sur la même dynamique électro-rock. Les 11 titres de « Where is the Queen ?»« Who is Chris King ?»« I cannot tell, she's gone. Gone where ? She's gone. » Car c'est le titre exact de ce disque, on en perdrait le fil. Je disais donc, les 11 titres s'accordent parfaitement, alternant pudeur et émotion, avec un sentiment d'urgence et de revanche. Le Prince Miaou nous offre un album réussi, la maîtrise est totale, l'univers est affirmé et salué. On écoute tout de suite « Happy Song for Happy People ».
I know I stand for you empty people.
Eh bien voilà, ce chant libre numéro 500 est pratiquement terminé. Je suppose qu'on en fera un autre la semaine prochaine, un chant libre numéro 500, le numéro 501. Laurent sera toujours à la technique, bien sûr. Joe, on se retrouve...
Dans un mois.
Dans un mois. Mm-hmm. Il y aura de l'actualité cinématographique.
Ah oui, en plus rigolo, je pense.
Ah ouais.
Oui.
Tu vas faire une comédie.
Une petite...
Oui, une grosse idée.
Grosse idée.
Oui.
Je sais plus, j'avais eu une idée pas cet après-midi, mais bon.
Non, du cinéma quand même.
Carole sera là également.
Il y a des chances, ouais.
On va te voir en pointillé, là.
En pointillé.
Dans les jours qui viennent. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée et on va terminer ce numéro 500 avec la réédition d'un album du groupe Beechwood Sparks. Alors Beechwood Sparks, c'est un groupe américain qui en 2012 avait sorti un album qui avait été encensé par la critique. On disait le retour des Birds, des Beach Boys, etc. J'avais jeté une oreille, comme d'habitude, à la chose. Ça m'avait... paru un peu soporifique, et du coup je les avais laissés de côté. Et puis voilà qu'on réédite leur tout premier album, qui lui date de la fin des années 90. Et là, pour le coup, ils n'étaient pas encore complètement endormis, donc une musique un poil plus nerveuse, à la croisée de Big Star, indicatif de chant libre, et de Teenage Fan Club, un de mes groupes préférés. Donc voilà, ça s'appelle Beechwood Sparks, l'album s'appelle Desert Sky. Et c'était Chant libre sur les ondes de Couleur FM.
Bonne soirée.
À bientôt.
Saw things in a different way.